Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bonjour Gilles Gansman.
Je suis contente de vous retrouver.
Merci à Christine Bouillot qui a assuré pendant une semaine. Oui, bah écoutez, ravie que ça soit bien passé. Heureuse de vous retrouver. On va partir pour 2 heures d'infos. On va évidemment revenir à 11h moins le quart sur Viry-Châtillon, le jugement qui fait beaucoup réagir. Et puis notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Geluck qui viendra nous parler d'une exposition monumentale. Son chat déambulera d'abord sur les Champs-Élysées, il y est, c'est jusqu'au 9 juin, et puis un petit peu partout en France, mais on va en reparler dans un instant. Absolument.
Ouais.
Et puis à 10h30, on parlera des EHPAD. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Est-ce que les proches peuvent plus facilement aller voir leurs parents, leurs proches?
Puis est-ce que les contaminations ont vraiment arrêté, en fait?
Oui, dans les EHPAD. On va parler de tout ça dans un instant. Et la question du jour, c'est de l'actualité télé. Hein,
ah oui, c'est de l'actualité télé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les journaux, il y a eu beaucoup d'échos et beaucoup de réactions sur Twitter. Sur France 3 va arriver une nouvelle émission qui a été tournée le 22 mars à l'hôtel Meurice par Thierry Ardisson, qui fait son retour après 15 ans sur le service public. L'animateur de 73 ans a tourné l'Hôtel du Temps. Et l'Hôtel du Temps, le principe est d'interviewer les morts. Et son premier invité, c'est Jean Gabin. Ça fait bizarre de dire mon invité sera Jean Gabin. Et il va le faire réagir sur l'actualité du moment, sur le Covid, sur la société. Donc, à mettre des dialogues dans une personne qui est disparue et qui ne sont pas ses propres mots,
ça
va polémiquer, c'est sûr. Et du coup, on vous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Oui à 24%, non à 76%.
Non,
ce n'est pas une bonne idée.
D'accord.
Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous en pensez quoi, vous, madame?
J'en sais rien. J'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir. Thierry Ardisson est très créatif, très, très imaginatif. Donc, faut voir ce que ça peut donner. Voilà. On y revient dans un instant avec vous et le zapping.
Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping.
C'est dur de reprendre les habitudes.
Oui.
Je ne sais pas ce que... Ouais. Une petite musique. Ils ont été plus de 6 millions de Français à suivre les obsèques du prince Philippe samedi après-midi. 6 millions, c'est un carton. Et 13 millions sur la BBC. Évidemment, on a retenu l'image de cette reine seule, la tête baissée. Et puis, bien sûr, la sortie des deux princes, William et Harry, qui se sont rapprochés. Et c'était Stéphane Bern sur France 2. Vous allez voir, je vous ai mis le début de la cérémonie et la fin de la cérémonie.
Kate Phillips qui sépare le prince Harry et le prince William. Derrière Tim Lawrence, l'époux de la princesse Anne, princesse royale, qui était sans doute l'enfant préféré du prince Philippe, celle en qui il se reconnaissait le plus. C'est une image symbolique, là.
Les frères côte à côte.
Les deux frères côte à côte avec la duchesse de Cambridge. C'est une image qu'on n'espérait plus et qui est sur nos écrans.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une sortie d'enterrement normal. On papote
et les larmes du prince de Galles en sortant de l'église.
Voilà, les deux frères, c'est sûr que ça
Moi, j'étais très énervée par tous les commentaires de supputation, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête de la reine, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit les deux frères. Alors, il y avait deux pages dans Le Parisien d'un comportementaliste qui essayait d'analyser, de savoir, mais qu'on leur foute la paix, quoi. Ils enterraient leur père, on n'a pas besoin de décrypter tout ça.
Eh ben, vous êtes bien revenu des vacances. Hier sur BFM, l'avocat des deux policiers brûlés dans leur voiture à Viry-Châtillon a exprimé sa colère suite au verdict. Et pour lui, même ceux qui ont été condamnés à 18 ans de prison, pour lui, c'est une peine minime. Écoutez.
Sur ceux qui sont condamnés, ils sont condamnés à 18 ans de réclusion pour 3 d'entre eux. Déjà, c'est assez peu pour avoir voulu tuer des policiers, les avoir brûlés vifs dans leur voiture, avoir tenu les portes pour qu'ils brûlent mieux. Et pour cette jeune femme qui sort enflammée, elle crie effectivement qu'elle a des enfants, elle crie à l'aide, elle reçoit des pierres et des coups de poing. C'est-à-dire qu'il y a des types quand même qui sont allés à son contact et qui lui ont asséné des coups de poing à la figure alors qu'elle était en flammes. Enfin, est-ce que vous imaginez ce que ça représente en termes de sauvagerie? Et ça vaut 18 ans de réclusion. Déjà, c'est choquant, c'est très choquant.
Et j'imagine que vous en parlerez avec vos débatteurs de 11h à midi sur Sud Radio. Autre colère, celle de Gérard Lanvin. Oui, c'est à 10h45 maintenant.
Oui,
10h45 midi. Voilà. Autre colère, celle de Gérard Lanvin dans 7 à 8, qui ne supporte plus notre époque.
L'époque, elle est déconcertante. Elle est affligeante. La technologie a pourri le monde pour moi.
Je veux dire, l'époque est devenue une époque minable où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans, où c'est de la dénonciation, c'est de la délation, c'est une époque minable. C'est très difficile aujourd'hui d'imaginer un monde heureux dans les années qui vont venir, là. C'est très difficile.
Et puis, il s'appelle Neo Svankalis. Vous les connaissez, Valérie ? Neo Svankalis. Ben, ils gagnent des milliers, voire des millions d'euros. Et pourtant, ils sont mineurs. Ce sont les youtubeurs mineurs. C'est un vrai phénomène. Et demain, 20 avril, va entrer en vigueur une loi pour encadrer les youtubeurs mineurs. Et BFM en parlait.
Ils s'appellent Swan et Neo, Gabin et Lily, Elise Magic World, Studio Bubble Tea ou encore Mademoiselle Sabina. Si vous ne les connaissez pas, sachez que ce sont tous des influenceurs. Leur particularité, c'est qu'ils sont mineurs. Mais ils peuvent gagner énormément, jusqu'à 150 000 euros par mois.
On ne pourra plus simplement faire travailler un enfant sur YouTube sans respecter un certain nombre de règles qu'on doit respecter, observer lorsqu'on fait travailler un enfant dans un film ou dans une comédie.
Et oui, j'ai 12 ans et je gagne 150 000 euros par mois. Donc, donc voilà. Mais c'est bien de les laisser libres aussi.
On invitera le président de l'association.
Mais vous ne trouvez pas que c'est bien aussi de les laisser libres ?
Non. Non, je pense qu'il y a une responsabilité des parents là-dessus, vous le savez.
Sandrine Saroche, vous savez, notre chouchou, elle a observé le grand retour de Sheila, qu'on va bientôt recevoir, et elle lui a proposé de revisiter un de ses succès. Après l'école est finie, la version 2021, c'est Léna est finie.
De Michel Sapin, Ségolène, Laurent Boquet, Martine Aubry. C'était de la crème, tant pis, tant pis, Léna, c'est fini.
Alors, toujours très douée, très Sandrine, vivant, c'est très drôle. Allez, c'est Philippe Gueluc qui est avec nous.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, on est ravis de l'avoir à chaque fois qu'il vient, c'est un instant de bonheur. Philippe Gueluc, merci d'être avec nous ce matin.
Mais quel bonheur de vous retrouver.
Bonjour.
20 statues en bronze sont en ce moment exposées sur les Champs-Élysées. C'est votre chat. On a envie de rigoler parce que je vous ai dit, mais pourquoi un chat et pas une chatte ?
Mais parce qu'au départ, il me représentait. C'est un peu moi qui me cache derrière le personnage.
D'accord.
Et puis, vous imaginez le nom du musée que je vais ouvrir dans 4 ans à Bruxelles, qui va s'appeler le musée du chat et du dessin d'humour. Ça s'appellerait le musée de la chatte. Bon, ça attirerait du monde.
Oui.
Ah oui.
Mais ce sera un autre concept.
Vous avez jamais pensé, puisque Valérie parle de ça, vous avez jamais pensé à lui faire une petite copine hein?
Ah mais il en a eu.
Si, il en a eu.
Alors si vous relisez l'entièreté de mon œuvre, vous verrez qu'elle apparaît souvent. Il a, alors c'est, une fois c'est sa copine, une fois c'est... Non, en fait il a une femme, des enfants aussi, des neveux, et puis il a une maîtresse. Ouais. Mais tout le monde le sait, c'est une grande blonde qu'on ne voit que de dos. Voilà. Parce que j'arrive à la faire jolie de dos, un jour je l'ai dessinée de face, elle était horrible.
Elle était horrible. Attention à ce que vous dites. Hein. Il y en a à qui ça a coûté cher de parler de femme moche. Le chat déambule.
Mais elle n'est pas chanteuse.
C'est un magnifique album qui paraît chez Casterman, alors qui est le catalogue de l'exposition. Alors on peut dire que pour nos amis de province, l'expo ira ensuite à Bordeaux, à Caen et dans d'autres villes de France.
Oui, le calendrier n'est pas encore arrêté, mais pour les 3 premières, oui. Ouais. Mais normalement, on devrait aller encore à Marseille. Je crois qu'on fera une petite halte, mais avec des formats plus réduits à Saint-Tropez cet été. Et puis, on irait encore à Milan, à Genève, etc.
Mais il y a de la place à Caen, parce que c'est des petites villes par rapport à Paris, parce qu'elles sont monumentales. Donc, comment vous faites quand vous êtes dans des villes comme Caen?
Alors, à Paris, sur les Champs-Élysées, ça
s'y prête.
Partie, vous savez, la contre-allée,
la contre-allée en bas,
c'est magnifique parce que c'est ample et j'en ai calculé la taille pour cet endroit-là. Ouais. Ensuite, par exemple, dans certaines villes, on va devoir faire un petit parcours. Ça sera un jeu de piste. Ah. On ne pourra pas toutes les mettre en enfilade. On en mettra l'une sur la place machin chouette, l'autre devant la gare, etc.
Je me disais.
Ah oui, on va réinventer l'expo.
Alors, vous racontez dans ce magnifique catalogue le cheminement, comment dessinateur on devient sculpteur. Il y a une très jolie photo de vous, enfant. Vous étiez un mignon petit garçon.
Oui, j'avais des cheveux.
Oui, vous aviez des cheveux. Et puis, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de retrouver le chat, et ses statues sont particulières. particulièrement poétiques.
Ben merci.
Elles sont poétiques, drôles, sont des éclats de rire. Vous avez été voir sur les... Alors, on va revenir sur l'origine, mais vous êtes allé voir sur les Champs-Élysées les réactions des gens ou pas?
Ah ben, bien sûr. Ouais. Nous avons, à partir du 24 mars, commencé à installer... On avait commencé un peu plus tôt à installer les sculptures. Et tout de suite, les gens qui se promenaient là étaient heureux. Ouais. Les enfants se mettaient dans les poses du chat... j'ai ensuite rencontré des milliers de visiteurs. Le week-end, il y en a eu, ça a fait un peu peur, mais les gens sont très respectueux, portent le masque, gardent les distances. Mais je crois qu'on a eu, en un week-end, on a eu près de 200 000 visiteurs.
Et puis, on peut se balader avec son portable, parce qu'au bas des sculptures, si vous observez bien, il y a un petit QR code, c'est ça?
Exact, et qui permet de charger une application gratuite qui fait en même temps audio guide, renseignements sur toute l'exposition, qui est un peu un catalogue bis gratuit et accessible. Oui. Mais pour les réactions des gens, je suis évidemment infiniment touché par ce qu'ils me disent. Ouais. Parce qu'ils me disent tous, mais je vous dis, il n'y en a pas un qui ne m'a pas dit merci. Merci, merci, merci de nous faire rire, de nous donner de la joie alors qu'on en manque tellement, et de nous offrir cette exposition en plein air, gratuite, accessible à tous.
Ouais. Si je les enlève, la rançon, vous êtes prêt à payer combien? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce qu'il y a une sécurité?
C'est monumental.
Il faut déjà un gros Manitou, c'est un élévateur pour les retirer. Et puis, je ne sais pas par où vous les emporterez. Ouais. Elles font 2,5 tonnes chacune. Donc, il faut une camionnette costaude.
Et les tags, vous avez eu peur des tags?
Alors, bien sûr, on a toujours peur. Mais honnêtement, je ne suis pas dans cet esprit-là. Je me dis, mais non, je crois que ça apporte tellement de la joie, ça fait rire, que je ne vois pas comment des gens voudraient abîmer ça.
Alors, elles sont à vendre? Elles sont déjà vendues pour une partie d'entre elles, de ce que j'ai vu?
Oui, alors évidemment, ce n'est pas le but de l'exposition, mais au contraire, la vente permet l'exposition. C'est-à-dire que Anne Hidalgo, qui a accepté le projet avec enthousiasme, m'a dit à condition que ça coûte 0 centime à la ville de Paris ou aux contribuables. Et donc, j'ai imaginé un procédé qui me permettrait d'offrir l'exposition aux villes. Et ce procédé, c'est tout simple, c'est que je les ai proposés à la vente auprès de collectionneurs fortunés, certes, mais qui récupéreront la sculpture après la tournée. Et je me suis engagé à ne percevoir personnellement aucun centime de bénéfice pour que tout l'argent récolté aille d'abord à l'exposition, à la tournée, et ensuite au futur musée du chat à Bruxelles.
Alors l'idée, elle est venue d'où, peut-être pour nos auditeurs, de faire ces sculptures?
C'est une idée à la... C'est une idée à la note coco. Je me dis, tiens, si je faisais une belle expo en plein air, et puis j'ai revu des images et des émissions sur, plutôt des reportages sur l'exposition Botero en 92. Il y a 29 ans, il a fait ça. Et je me dis, mais lui, il sculptait des grosses, magnifiques. Et moi, je dis, je sculpte en gros, donc on est fait pour se succéder. Et donc, je sculptais déjà depuis longtemps. Et le premier chat en mouvement et en grand, c'était en 2003. Ouais. Et donc, j'ai continué en produisant une chaque année à partir de 2008. Et puis, j'ai accéléré le mouvement et j'ai eu cette idée. Et je suis allé la proposer à Anne Hidalgo, qui l'a acceptée avec enthousiasme. Et en sortant de là, je me dis, mais au fond, c'est pas si difficile que ça de lancer un projet.
Mais la sculpture, c'est un autre métier.
Pardon ?
La sculpture, c'est un autre métier que celui de dessinateur.
Ah oui, mais je pense que je sais que tous les sculpteurs ont été dessinateurs.
Ouais.
Et tous les sculpteurs ont dessiné. Giacometti dessinait, Rodin dessinait. Et Rodin a produit des dizaines de milliers d'aquarelles magnifiques. Donc, ces métiers sont très liés parce qu'on imagine une scène, un mouvement que l'on reproduit sur papier, et puis on essaye de le bâtir dans de la terre glaise, et il prend vraiment naissance. Et je suis passé de l'un à l'autre assez naturellement, et c'est pas le même métier, et en même temps, l'un est la continuité de l'autre.
Comment vous avez choisi ces 20 modèles de chats, la danseuse en tutu avec la petite souris
Qui l'aide, et qui lève le cric, c'est des idées que j'ai de dessins rigolos, et puis je me dis, est-ce que ça pourrait devenir une sculpture? Parce qu'il faut que la sculpture exprime quelque chose de façon muette. Le chat, il est bavard, il y a les
absolument.
Bulles. Ici, je dois...
Oui, exprimer une idée, faire rire.
Parce qu'il n'y a pas tellement de sculptures rigolotes dans l'histoire de la statuaire. La Vénus de Milo, elle ne nous fait pas poiler. Les sculptures de Rodin, elles sont magnifiques, impressionnantes, d'une justesse et d'une force incroyable, mais ça fait pas rire.
Ouais.
Et le chat, il fait rire les gens. Et c'est ça qui est tellement... En général, La sculpture est grandiloquente. Ce sont des généraux d'armée, ce sont des
Là, on a scènes, voilà. Là, c'est un chat, par exemple, le chat qui soulève des haltères et il y a un petit oiseau, très joli celle-là, qui se pose sur un des côtés des haltères et il perd l'équilibre.
Oui, parce qu'il y a 100 kilos de chaque côté, mais 100 kilos et 10 grammes, ça fait basculer le chat.
Voilà. Vous avez fait le mannequin pis ou pas?
Non, alors il y a ce qui pourrait être le chien du mannequin pis. J'ai appelé ça pipi et gros bidet.
Oui, voilà.
Alors c'est le chat qui fait faire pipi à un chien à travers un cerceau, comme au cirque. Et c'est une sculpture fontaine.
Ouais, et c'est l'occasion de voir dans la série Allons jusqu'au bout, justement, vous avez le casseur de couilles. Et puis.
Oui, mais attendez, il est pas, le casseur de couilles, il n'est pas sur les Champs-Élysées.
Non, il n'est pas sur les Champs-Élysées. C'est dans l'album qu'il faut acheter si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas la chance de voir de venir sur les Champs-Élysées ou d'être dans une des villes, achetez l'album parce que c'est toujours un bonheur. Vous êtes philosophe, humoriste, poète, je sais pas comment on peut vous qualifier parce que c'est
homme à tout faire.
Ouais. Oui, mais avec beaucoup de talent. J'aime beaucoup le deux poids deux mesures. J'aime bien l'échelle aussi, le chat qui tient une échelle.
Il s'appelle Roméo et Juliette. Voilà. C'est le chat qui tient une immense échelle et sur le dessus de l'échelle il y a un oiseau. Et on pense pour lui, on dit, tiens, s'il essaye de monter sur l'échelle pour attraper l'oiseau, il va se péter la gueule.
Il y a quelques semaines, il y a Plantu qui a fait son dernier dessin pour Le Monde. Ouais. Est-ce que vous, un jour, vous dites, je ferai un dernier album, un dernier dessin? Et qu'est-ce que vous pensez de Plantu qui décide d'arrêter?
Je vais poser la question, est-ce qu'un dessinateur, ça prend sa retraite?
Alors, il va évidemment pas s'arrêter de dessiner, mais je comprends. Moi, j'ai quitté Le Soir, le journal dans lequel le chat est né, après 30 années de publication. Aussi, j'ai posé un acte. Ouais. Et c'était pour récupérer du temps, pour peindre, pour sculpter. Je trouve que la décision de Jean est formidable. Il va nous manquer, mais je trouve que c'est très lucide de savoir s'arrêter en pleine possession de ses moyens.
Ouais.
Alors, est-ce que moi, je vais décider un jour de m'arrêter totalement? Je crois pas. J'aimerais mourir comme Tommy Ungerer, immense dessinateur alsacien, qui a une renommée mondiale. Vous savez comment il est mort?
Non.
Et comment on l'a retrouvé à près de 90 ans, allongé dans son lit. Dans la main gauche, il avait son carnet de croquis, dans la main droite, son crayon. Il allait griffonner quelque chose.
On ne s'arrête pas de dessiner.
On ne peut pas.
Non. Et vous continuez à dessiner, vous, au quotidien, quand des fulgurances, des idées comme ça vous viennent
Bien sûr. Ouais. Parce que alors, non seulement pour des dessins, parce que je prépare la suite, parce qu'on me dit, alors, à quand le prochain?
C'est tout. Oui, c'est ça. C'est quand le prochain? C'est le temps de le faire, mais le temps de le lire, il n'est pas le même.
Et puis, quand je prépare évidemment des nouvelles sculptures, et chaque nouvelle sculpture commence par un croquis.
Est-ce qu'il y en aura des plus accessibles pour les gens moins fortunés, des petites sculptures? Il y a déjà pas mal d'objets autour du chat, mais...
Pas énormément, en fait. C'est surtout des éditions, des sérigraphies, des choses comme ça. Mais j'ai tout à fait renoncé à ce qu'on appelle le merchandising.
Ah, les tasses, tout ça, il n'y a plus?
Oh, il y a
les chocolats.
Vous aviez fait des chocolats,
Le chocolat, il y a un peu.
Chocolat belge.
Je ne fais pas des petites figurines, des porte-clés, des machins, parce que ces trucs-là sont fabriqués en Extrême-Orient. Ouais, je me dis, il faut arrêter avec tout ça. Donc, je me concentre sur l'édition. L'édition de posters, de cartes postales, parce qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Pour les sculptures, oui, il y a des éditions à taille originale, mais qui ne coûtent pas non plus rien. Et puis, il y a des éditions en mini, des bronzes, c'est très joli. Ouais. C'est long.
Ce sont des œuvres d'art, et ce sont des œuvres d'art, on peut le dire comme ça. Il y a un chapitre qui est consacré à l'humour, l'humour dans l'art, c'est très drôle, et on voit que les artistes de tout temps ont voulu faire rire avec l'art.
Mais alors pas énormément, oserais-je
dire. Pas énormément.
Mais j'ai retrouvé des traces dans les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. C'est hallucinant. Il y avait des types donc qui sculptaient les hiéroglyphes dans de la pierre et qui se permettaient de transformer des proverbes pour en faire des trucs un peu rigolos. Donc déjà, ça les faisait marrer. Puis il y a le Moyen-Âge avec les gargouilles, il y a la Renaissance, etc. Ouais. Mais l'humour dans l'art a toujours été contestataire.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas toujours été bien vu par les élites pensantes et les tenants de la vérité artistique.
Vous n'avez pas fait de sculpture avec un masque, avec le chat masqué?
Alors figurez-vous non, parce que je me dis, bon ça va, tout le monde porte les masques, on a envie de sortir de là. Mais il y a les masques du chat maintenant, et dans un tissu très agréable.
Un petit peu de merchandising.
J'en avais fait faire un très très grand pour mettre sur une sculpture, pour essayer, mais ça marchait pas. Donc
Vous avez oublié.
Le chat déambule, donc il commence sa déambulation sur les Champs-Élysées. Ce sera jusqu'au 9 juin. Il partira ensuite à Bordeaux, à Caen, dans d'autres villes. On aura le calendrier et puis il terminera au musée du chat.
Voilà, alors pas dans le musée parce que les sculptures sont trop grandes pour les plafonds sont pas assez hauts, mais je voudrais que au moment de l'inauguration du futur musée du chat et du dessin d'humour, j'insiste bien que c'est pas que le chat.
Oui, c'est le dessin d'humour.
C'est pour rendre aussi hommage à une profession qui est la mienne, à des gens que j'aime et que j'admire. Et donc l'exposition sera présentée au Parc Royal de Bruxelles au moment de l'inauguration du musée.
Parfait. Et je rappelle que le chat s'est vendu à plus de 14 millions d'exemplaires. Hein, vos albums partout.
Alors, on me dit que maintenant, c'est 14 millions et 150.
Ah, d'accord.
Parce que depuis la semaine dernière, il y en a encore 150 qui ont été vendus.
Et 151. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Geluck, d'avoir été avec nous. Et puis, allez voir ces chats. C'est un moment de plaisir sur les Champs-Élysées. Et puis, sinon, le chat déambule aux éditions Casterman. Très, 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 très drôle. C'est vrai qu'il vaut le moins que les Giacometti, où pourtant il y a moins de...
Il y a plus de bronze. Voilà. Ça vaut moins. Alors au kilo, je vaux moins cher que Giacometti.
C'est quand même pas normal.
C'est très vexant.
Merci Philippe Geluck, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Oh, j'ai bien senti que vous vouliez vous acheter un chat miniature, Valérie.
J'ai pas les moyens d'acheter un chat.
Oui, j'ai bien compris que ça coûtait très cher.
Les tonnes, c'est très cher. Mais c'est très chouette. Franchement, si ça passe dans votre ville, allez-y. C'est vraiment sympa. Gilles, la question du jour.
La question du jour, elle était sur Thierry Ardisson qui lance une émission où il va interviewer les morts. Son premier invité, c'est Jean Gabin. Et Jean Gabin donc, va être interviewé par Thierry Ardisson. Alors, évidemment, il faut voir le résultat, mais on vous donnait déjà on voulait connaître votre sentiment. On vous a demandé votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. Alors, pour l'instant, c'est une majorité de non à 79%. Et Jackie dit non, car il risque de leur faire dire n'importe quoi. Ouais. La responsabilité est grande. Bon, moi, je suis un peu d'accord avec Jackie. C'est compliqué de faire parler Jean Gabin sur le Covid et sur les choses comme ça. Mais il faut se méfier parce qu'il est malin, Ardisson. Donc, je pense qu'il a réfléchi à tout ça.
Alors, il y a François Mitterrand qui est prévu, Lady Di, Louis de Funès, Michel Morgan, Marlène Dietrich ou encore Michel Audiard. Et il est prévu que Dalida lui téléphone. Voilà, c'est ce qui est annoncé. Il faut attendre de voir effectivement ce que ça peut donner. Ce sont des techniques un petit peu comme celles qu'on voit
chez Canteloup. C'est assez bluffant,
avec des voix comme Yves Lecoq qui fera celle de Mitterrand apparemment. Donc c'est plutôt, on verra. On verra, mais en tout cas, l'idée ne vous séduit pas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je ne sais pas si on a le droit de le faire ou pas, d'un point de vue légal.
Je ne sais pas, parce que oui, les ayants droit français, mais alors...
Sauf si c'est de la caricature.
Je ne sais pas. On verra. Ça, c'est prévu pour quand, Gilles ?
C'est prévu pour la rentrée. Ça sera sur France 3, mais il tourne déjà. Et nous avons fait une demande auprès de l'attaché de presse de Thierry Ardisson pour le recevoir.
Allez.
J'attends les réponses. C'est très compliqué de se caler, Thierry Ardisson.
Eh bien, on lance un appel, Thierry, si tu nous entends. On sera ravis de te recevoir. Allez, on se retrouve, nous, dans un petit instant pour parler des EHPAD. Est-ce que la vie a repris son cours normal dans les EHPAD ? À tout de suite.